train de réfléchir. Ou alors, je serai sauvé, mais qu'en partie ? Est-ce qu'on peut être sauvé qu'en partie ? Et alors, à ce moment-là, moi, j'arrive, je vois Maurice, mais je lui ai dit, mais Maurice, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu vas te faire un claquage, là, un claquage de neurones, c'est possible, ça arrive, ça. Il faut faire... Non, mais arrête de te poser des questions. D'ailleurs, tu remarques que quand tu te poses des questions, t'es là, tu tournes en rond, et puis même, tu vas te cacher jusque dans le fond. Donc, t'avances pas, tu tournes en rond. Alors, heureusement, il y a l'antidote. Moi, j'ai la version pas chère, mais c'est les mêmes choses qui sont écrites que dans les versions luxe avec des petites bordures dorées. Hein. C'est la même, c'est l'antidote. On trouve plein de choses là-dedans, c'est formidable. Vous avez la même ? Avec des dorures, sans dorures ? Non, mais c'est génial. Hein. Alors, que se passe-t-il chez nous ? Il y a Paul ? Eh bien, heureusement qu'il est là, le gars Paul. Il nous en explique des choses. Eh bien, il nous l'explique dans Romains 7, verset 18, on va commencer par le 18, hein, c'est normal, on va pas aller à la fin tout de suite. Je lis et vous lisez avec moi, mais vous pouvez aussi ouvrir vos bibles, comme ça vous mettez un petit marque-page dedans pour vous dire, tiens ça, je vais le relire cette semaine. Hein ? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le vouloir de faire le bien. On va s'arrêter là. Première disposition de Paul. Paul a la volonté de faire le bien. Ça, c'est déjà une première disposition intéressante. C'est qu'au moins, déjà, on peut dire qu'il s'est mis dans une nouvelle position, Paul. Il ne regarde pas à lui-même, mais il est soucieux du bien-être des autres. Moi, c'est ce que j'en comprends quand il dit ça, qu'il dit qu'il a la volonté de faire le bien. Il regarde, et ça c'est mon interprétation, mais je vais vous dire pourquoi je le lis comme ça, il regarde l'autre à travers de Jésus, Jésus qui est le modèle. Et ce qui me permet de dire ça, c'est dans 1 Corinthiens 13, tout ce qui a été écrit par rapport à l'amour. Vous ferez le lien. Je continue. Au verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors là, Paul, il fait un constat, et ça peut peut-être nous éclairer, et éclairer Maurice, et tous les Maurice et Mauricettes qui sont présents. Le péché habite en lui, puis ça crée une tension. Et là, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu concernés, nous aussi. C'est pas pour rien que c'est marqué dans la Bible, d'ailleurs. C'est pas pour rien. C'est qu'on a besoin de ces enseignements. On a besoin de se retrouver, de se reconnaître. Et en plus, c'est Paul qui dit ça. Moi, à chaque fois, quand on voit Paul, tout ce qu'il a fait, moi, ça... Voilà, on... Monsieur Paul, quoi, j'ai envie de dire, hein. C'est lui qui dit ça. En pleine humilité, il aurait pu dire, non, attendez, moi je vais d'abord regarder déjà ce que je fais. Il le dit d'ailleurs, imitez-moi parce que moi j'imite Jésus, il le dit hein, dans la parole, vous le retrouverez. Donc il aurait pu s'arrêter là et dire, bon, j'ai des petites bricoles qui ne marchent pas trop bien, mais ça, c'est pas grave, je ne veux même pas les regarder. Non. Il s'observe, il observe son cœur, il observe comment il vit. Quand on, je pense à ça, quand on partage la Sainte Cène, qu'on partage le pain et le vin, c'est bien indiqué, et l'autre jour on nous l'a redit, qu'il faut s'examiner soi-même, ok ? S'examiner soi-même. Là, c'est ce que fait Paul, il s'est examiné lui-même. Et c'est important de le faire. Pas comme Maurice a tourné en rond, mais de chercher les réponses dans la parole. Et Paul a fait cette démarche. Et ça, c'est intéressant. Je continue, verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi » qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On imagine bien les yeux, la langue aussi, que l'on ne maîtrise pas toujours comme il faut. Je ferme la parenthèse. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc voilà comment Paul, il explique cette situation. Par mon cœur, je suis attaché à Jésus, mais mon corps, ma chair, est corrompu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous choquer, nous chrétiens. Même quand on le lit et que c'est Paul qui nous l'explique, on se dit, mais on est sauvé, donc on est lavé de tout péché, donc c'est bon. Non, non. Paul, il nous le dit, malgré tout le chemin qu'il a fait, il nous l'explique. Je suis attaché à Jésus, mais mon corps, ma chair est corrompue. D'ailleurs, ils le disent dans un autre passage qu'il il serre les boulons à son corps, à sa chair. Il essaye de la maîtriser pour ne pas se laisser déborder. Vous retrouverez ce passage. Mais heureusement, heureusement, Dieu pense à tout. Alors, on va poursuivre dans Romains 8, au verset 11 et suivant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, jusque-là ça va, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à notre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc ça, c'est important. Je continue. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. Ah ah ! Donc il ne faut peut-être pas rester les bras croisés, on a une dette. Je reprends. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alors là, la réponse de Paul, on voit bien qu'il est dans la continuité. Il ne nous laisse pas avec un problème, il ne laisse pas Maurice avec son problème. Il apporte une réponse. La réponse est de vouloir être changé, mais pas par nos propres forces, on sait que ça ne marche pas, hein, mais par l'Esprit Saint. Vouloir, c'est être actif, non passif. C'est pas j'attends que Dieu me transforme, je ne demande rien, je suis là, j'attends. On peut attendre longtemps. Il faut être volontaire, il faut le vouloir. Alors là, notre volonté est en jeu, mais c'est une première étape. J'ai envie de dire, ça ne suffit pas. Mais c'est une étape importante. Il y a notre volonté qui est là. Je continue, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'avais noté autre chose, mais je le laisse. Et là, donc, juste avant, on peut dire que Paul, il met la cerise sur le gâteau. Là, vraiment, c'est le moment important. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. On l'a chanté en plus. J'ai trouvé ça formidable. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, c'était dans le chant aussi, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, de prendre aussi part à sa gloire. Nous avons notre part, nous avons des choses à faire. Mais avant, il faut vraiment que l'on soit convaincu, que ce ne soit pas que des mots, qu'une idée. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, je cause, mais j'ai envie de résumer cette première partie. Un résumé, c'est toujours un petit peu court. Nous voulons suivre Jésus et marcher dans la lumière. Ça, c'est le premier constat. Ok, dans le résumé, on peut le mettre. Nous voulons suivre Jésus et marcher dans sa lumière. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Par mon cœur, je suis attaché à Jésus, mais mon corps, ma chair est corrompue. Ça, c'est un constat. Donc, il y a conflit entre mon cœur qui est à Jésus et mon corps qui est contaminé par le péché. Donc, nous devons, par l'Esprit, faire mourir les manières d'agir du corps. Ne restons pas dans la crainte et la servitude de la chair, car nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est mon petit résumé de la première partie. Ça vous va? On suit toujours? C'est toujours OK? Bon. Alors maintenant, la question, deuxième question, c'est comment faire mourir les manières d'agir du corps? On attaque? On y va? Allez, parce qu'on ne va pas rester comme ça. On est bien d'accord, on va avancer quand même. On met notre volonté en action. Un Corinthiens 10, au verset 23. Tout est permis, tout m'est permis, selon les versions. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et ça, il va falloir le mettre en lien avec 1 Corinthiens 13 sur l'amour. C'est important. Si cette semaine, vous reprenez vos petites notes ou ce que vous avez entendu, je vous invite à faire ce rapprochement avec 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Donc, dans ce que je fais ou je pense, tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas, c'est-à-dire tout ne me fait pas grandir. Tout ne fait pas grandir. Il y a des choses qui sont essentielles, des choses qui le sont moins. Bon, il faut savoir où on se place. Il y a des fois, quand je prépare, je fais un peu n'importe quoi. Bon, tant pis. Je vais reprendre le refrain de Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bon, fini la récréation, et pour nous, le nécessaire, c'est Jésus. OK? C'est notre nécessaire. Ça ne veut pas dire vivre chichement, non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire seulement vivre en pensant à Jésus. Regardez Jésus, uniquement à Jésus. En agissant conformément à sa parole et à ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Alors, une fois de plus, je vais utiliser le mot décontamination. Dans le précédent message, je disais qu'il fallait faire attention à ce que l'on vit, ce qui se passe dans le monde, parce que ça peut nous contaminer. Et c'est une réalité. Donc, il y a cette décontamination aussi à faire vraiment d'une façon intérieure. Il faut nous purifier. On l'a chanté d'ailleurs dans la louange, de un chant, une louange de Corinne Lafitte. Il faut nous purifier et nous laisser transformer par l'Esprit Saint. On le disait tout à l'heure dans Romains 8, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, il habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Alors, pour cela, il me semble que il faut demander dans vos prières à être débarrassé de tout ce qui n'est pas nécessaire et utile, tout ce qui n'édifie pas, tout ce que pour l'instant on se dit « oh, c'est bien, c'est des... » Voilà, il y a des choses que l'on trimballe, mais qui ne sont pas forcément utiles dans nos vies et dans notre cœur surtout. Donc, peut-être faire une prière toute simple, hein. Seigneur, viens me révéler ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas à ta gloire, ce qui encombre mon cœur, afin que je te fasse de la place. Voilà, tout simplement, ça peut commencer par ça, par cette prière. Faire de la place à Christ. Et puis, bien évidemment, comme toute prière, si on le demande d'un cœur sincère, ben oui, il va agir. Cette prière va être agissante. Il va se passer quelque chose. On va être transformé progressivement. Ce n'est pas une prière qui monte comme ça, on se dit « mais il s'en va où ?» Non, il est là, Jésus. Quand vous priez là, il est auprès de vous quand vous êtes chez vous. Il est près de vous, il est dans votre cœur par son Saint-Esprit. Quand vous priez, il y a cette interaction. Alors, il faut avoir cette volonté de changer. Faut à un moment donné, comme on l'a dit tout à l'heure, faire ce constat de là où on en est, de ce qu'il y a dans notre cœur, et qu'il y a des choses on ne sait pas, et bien on demande, Seigneur, révèle-moi ce qui n'est pas à ta gloire. La volonté de changer, mais c'est l'Esprit Saint qui agit. Ce n'est pas par nos forces. Ouais, faut lui... donner notre cœur à Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Ça aussi, c'était un chant qui vient de Zacharie 4. Alors, il y a un autre point qui est vraiment essentiel, c'est de passer du temps. Passer du temps de qualité avec notre Seigneur. Prendre du temps avec lui, c'est que ce soit individuellement, chez soi, des temps de prière, des temps où on est avec lui, où on prie, mais tout simplement aussi en bricolant, en faisant la vaisselle. Ça peut paraître un petit peu comme ça, bizarre de vous dire ça, mais oui. Personnellement, mais je pense que vous le faites aussi, c'est que vous pouvez être en train de faire la vaisselle et puis moi je suis juste devant mon évier devant la fenêtre, donc je vois un petit peu ce qui se passe dehors et voilà, de temps en temps, aussi bizarre que ça puisse paraître, je dis merci Seigneur pour la nature qui est devant moi parce qu'elle est chouette et ça me plaît. Quand je vois c'est pas souvent qu'il passe, mais quand il y a un écureuil qui saute d'un arbre en arbre, moi ça me je trouve ça génial. Bon, je suis un peu fleur bleue, peut-être un petit peu comme ça, j'aime bien tout ça, mais ouais, c'est la création, je la trouve belle. Alors ben, je prie, je dis merci Seigneur. C'est des petits temps comme ça, mais c'est des temps de qualité, parce que c'est sincère, c'est le cœur qui parle. Puis il y a des temps plus profonds, où on prend du temps, on se met à part dans un lieu que l'on, si on peut, on réserve pour ça. Moi, je fais un petit peu dans mon bureau pour préparer les messages. Enfin, c'est une chambre d'amis qui fait bureau aussi, ça sert un peu à tout. Mais quand je prie, je suis dans la salle à manger. Quand je suis tranquille, je suis seul. Et puis vous avez remarqué, je fais souvent, je marche. Faut que je marche. Voilà. Alors je fais le tour de la table et je prie. Et tout ce que j'ai envie de dire au Seigneur, je lui dis. Et puis voilà. Et puis quand vous vous adressez à quelqu'un, vous attendez à ce qu'il vous réponde. Il vous répond, il vous cause. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Il y a cette relation qui s'installe et qui continue et il faut la faire perdurer. Plus le temps passe et qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un, quand on le revoit, on ne sait plus trop quoi lui dire. Ça arrive souvent, ça. Hein ? Par contre, quand il y a une vraie relation qui s'installe, eh bien, alors là, peu importe le temps qui passe, peu importe, on reprend la conversation où elle était rendue, comme si on s'était quitté quelques minutes auparavant. Créer cette relation, la nourrir continuellement, cette relation, c'est tellement important. Cette intimité que l'on fait grandir, cette intimité avec Jésus. Et pourquoi ? Ben pour mieux le connaître. Lui nous connaît parfaitement. Mais nous, on a besoin toujours et encore de le connaître mieux, me semble-t-il. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Alors, si je veux résumer un petit peu cette deuxième partie, tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Vivre en pensant à Jésus et agir, bien sûr, conformément à sa parole. Il nous faut demander à être purifiés et nous laisser transformer par l'Esprit. Et pour savoir quoi demander pour être purifié, j'ai envie de rajouter, il faut demander que Jésus nous éclaire sur ce qu'il y a à changer dans notre vie, dans notre cœur. On ne le sait pas toujours. Il faut passer du temps de qualité avec notre Seigneur. Je crois que rien qu'avec ça, déjà, ça résume cette deuxième partie. Il faut bien se souvenir, dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On ne peut rien faire sans lui. Ok ? Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a quelqu'un qui dit amen ?
Amen !
Moi, je me souviens d'une petite anecdote. Allez, je vous la raconte parce qu'on a un petit peu de temps. Et puis, je trouve que... Moi, ça fait un an, 10 jours près, un an que je suis guéri. J'avais une maladie, pour ceux qui m'ont vu, c'est une maladie que j'ai eue en cadeau pour mes 50 ans, c'était en 2012. Et ça s'appelle une encéphalomyélite myalgique. C'est un nom barbare pour dire, quand on ne sait pas ce que c'est, on invente des mots comme ça, un petit peu. Encéphalomyélite myalgique. Alors certains parlent de syndrome, mais pour ceux qui le vivent, c'est une vraie maladie. Et le temps a passé, ça a été assez difficile pour vous dire, pour aller chercher le pain à 800 mètres de chez moi. J'y allais comme ça, tout doucement, j'apprenais mon pain. Et puis pour revenir, de temps en temps, j'étais obligé de m'asseoir sur les petits murets. Heureusement, il y a encore des petits murets dans mon petit patelin, parce que rentrer, c'était dur. Et après, je me mettais dans le canapé et puis je chialais, parce que j'avais plus de jus, j'avais plus de force, j'avais plus d'énergie, j'avais plus à réfléchir. J'arrivais plus à pour faire un mail. Quand la période où j'essayais de travailler encore, j'avais encore mon boulot dans les périodes où entre des arrêts de travail, pour faire un mail, ça me prenait un temps fou. Il manquait des mots. J'écrivais même à l'envers. Ça pourrait faire rigoler quand on voit ça après, mais sur le coup, moi, ça me faisait plus rire. Pour monter un escalier avec mon ordinateur portable et ma petite sacoche, je me tenais au mur et puis mes collègues me voyant monter dans mon bureau, me disait mais tu peux pas rester comme ça, faut rentrer chez toi. Mais je dis mais non, médecins ils savent pas ce que j'ai. Donc que veux-tu que je fasse tant que je peux, tant que je tiens le coup, je vais bosser. J'étais vraiment au ras. Mon cerveau fonctionnait plus. J'avais l'impression d'être dans le brouillard. Pour aller quand ça fait plus de 30 ans que vous bossez sur des sites identiques, vous connaissez la route par cœur. Eh ben moi j'ai trouvé le moyen de me paumer pour aller au boulot. Je me retrouvais en campagne, je ne savais plus où il fallait passer. J'étais vraiment dans un état compliqué à vivre, parce qu'on ne se reconnaît plus, on n'est plus soi-même. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et petit à petit, bon, j'ai pu rencontrer, je ne vous passe les détails, mais on a pu diagnostiquer cette maladie à l'hôpital. Et le médecin m'a dit, voilà, c'est telle maladie, il n'y a pas de traitement, Donc, je ne peux rien vous donner comme traitement pour améliorer vos situations. Il n'y a que par votre comportement que vous allez pouvoir vous améliorer, c'est-à-dire du repos et du repos. Gérer le peu d'énergie que vous avez. C'est ça. La seule façon que l'on a aujourd'hui de traiter cette maladie. Et cette maladie, elle se déclenche après une attaque virale ou bactérienne. Ça peut être après une grippe, ça peut être n'importe quel virus, ça peut être une angine. Moi, c'était ça, c'est une grosse angine. Je ne faisais jamais d'angine. Là, au mois de septembre, j'avais fait en 2012 une angine énorme, et après, paf, plus de jus. Et pendant les mois qui ont suivi, c'est comme si j'avais la grippe en permanence, avec des frissons, avec tout le corps, les muscles, les os qui me faisaient mal. Vous imaginez, quand vous avez la grippe, pour ceux qui l'ont eu, ce que ça peut donner dans votre corps, des courbatures partout. Donc voilà, voilà comment j'étais. Mais en priant à la maison, Jésus me dit, je te guéris. Quand je vous dis qu'il nous cause, on prie, on prend du temps de qualité, on prie, et dans ce que je pouvais prier dans l'état où j'étais, il était là. Et il me dit, je te guéris. La première fois, je lui dis, non mais, tu me guéris, mais tu as vu dans l'état où je suis. Tu me guéris, je ne peux même pas prendre ma voiture et rouler plus de 10 minutes, un quart d'heure, c'est le grand maximum. J'étais en colère. Et quelques jours passent et je mes temps de prière comme ça. Je ne suis pas plus spirituel que vous, hein. Je ne passe pas des temps, des heures, je devrais certainement passer plus de temps avec le Seigneur. Mais dans ce petit temps que j'avais là, Jésus me dit, je te guéris, deuxième fois. Et je leur dis encore, mais non, je ne suis pas guéri. C'est moi qui m'imagine des trucs. Je doute. Et une troisième fois, je te guéris. Et là, je me dis, pour une troisième fois, là, il faut quand même que j'écoute. Donc si tu me dis, je suis guéri, eh bien, je suis guéri, je proclame, je suis guéri. Je dis à ma femme, moi, je suis guéri. Ah. Oui, ben, je suis guéri. Ça ne se voit pas pour l'instant, mes yeux ne le voient pas. Mais je m'en fiche. Moi, je prends, je suis guéri. Voilà. Maintenant, le reste, ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et petit à petit, dans mes prières, c'est juste mon témoignage que je vous donne ce matin. C'est mon témoignage, c'est valable pour moi. Après, vous prenez s'il y a des choses qui peuvent aussi vous correspondre. Mais je lui disais, Seigneur, moi j'ai envie de te connaître plus. Donc aide-moi à t'aimer. Et j'ai même rajouté, c'est un peu... Aide-moi à t'aimer comme toi tu m'aimes. C'est inconscient de dire des trucs comme ça. Il est mort pour moi. Parce que, en fait, je ne savais pas comment aimer Jésus. Je ne savais pas. Alors je lui ai dit, aide-moi. Je veux t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Et j'ai continué cette prière encore et encore. Aide-moi à t'aimer comme tu m'aimes. Aide-moi à voir les autres comme toi tu les vois. Et pas moi avec mon esprit tordu ou mon regard tordu, non. Aide-moi à voir les autres comme toi tu les vois, à les aimer comme toi tu les aimes. Parce que j'ai vraiment envie de ça. Alors il y a du boulot, c'est sûr, mais les prières, eh ben, elles montent et ça agit. Et l'autre prière que je faisais, c'est « Montre-moi, comme je l'ai fait ce matin, montre-moi ce qui ne va pas chez moi, de telle sorte à ce que je te fasse de la place. Et montre-moi ce qu'il y a à corriger. » Et petit à petit, le temps passant, il y a eu des hauts, des bas, des moments où, après mon licenciement, forcément j'étais à la maison, donc j'ai pu avoir plus de temps pour me reposer, donc ça a joué, mon état s'est un petit peu amélioré, l'hiver ça se redescendait, et puis comme ça, des cycles et tout. Mais bon, je suis guéri par le nom de Jésus. Et l'année dernière, au mois d'octobre, le 16 octobre, pour ceux qui ne savent pas, c'était le jour de mon anniversaire, l'année dernière, voilà, je discute avec des frères et sœurs, et il y en a un qui me dit, ah tiens, j'ai vu sur Internet une intervention, je ne sais plus qui c'était, d'un pasteur, et il dit, il y avait du monde dans la salle, c'était pour la guérison, et il dit, qui est-ce qui veut guérir? Alors là, il y a plein de gens qui se lèvent, et qui est-ce qui est prêt à pardonner? Et à ce moment-là, il y a les trois quarts qui s'assoient. Il dit, mais c'est incroyable, quoi. Et puis on échange sur le pardon, tout ça. Voilà, bon, partage le gâteau. Et puis, je rentre chez moi. C'était au groupe de maison. Je rentre chez moi. Et puis, dans la voiture, vraiment, j'étais tranquille, je rentrais. Et là, vraiment, cette pensée qui me vient, et toi, t'en es où dans le pardon ? Bon, bah, quand même, moi, c'est bon. J'ai fait le nécessaire, j'ai pardonné à ceux qui voilà, et puis j'ai demandé, enfin bref, le pardon, c'est bon, voilà. Même une personne qui avait tout fait pour passer une période un peu difficile au niveau du boulot, une personne qui voulait prendre ma place et qui a tout fait pour et qui a vraiment manigancé, et ça a été très compliqué. Mais disent, voilà, même cette personne-là qui m'a poussé jusqu'au bout, eh bien, je lui ai pardonné. J'ai même qu'une envie, c'est qu'il puisse venir ici ou dans une autre église, peu importe, mais qu'il puisse être touché par le Seigneur. Donc, je dis, ouais, donc c'est bon. Je vois pas. Seigneur, je vois pas. Pourquoi cette idée me vient ? C'est ridicule. Et puis, la nuit se passe, le matin, je me réveille et cette pensée qui me revient. Et toi, t'en es où ? Avec le pardon. Bah, j'ai déjà dit, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Je commence à me poser des questions, quoi. Et puis une troisième fois, t'en es où avec le pardon ? Oh là 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 là, bon, je dis, Seigneur, là, je sais pas. Je sais pas où tu veux en venir, mais montre-moi parce que je vois pas. Et à ce moment-là, je pense à une personne et un couple en particulier, et là, j'ai de l'agacement qui vient. Oh zut ! Ah, si j'ai de l'agacement, ça veut dire qu'il y a du non-pardon. Donc, s'il y a du nom, oh là 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 là, ben là j'étais, mais voilà, il m'a montré. J'emmenais pas large. Hein. Et là, j'ai demandé, ben pardon déjà au Seigneur. J'ai dit, pardonne-moi, je voyais pas. Et alors là, j'avais cette image. C'est comme si j'avais un boulet. J'avais tellement l'habitude de marcher avec ce boulet que je me rendais même plus compte. C'est comme à la maison. Si dans l'entrée de chez moi là ce matin, il y avait une petite table, une petite desserte là, pour faire joli dans le couloir, et puis je me suis rendu compte qu'elle était pleine de poussière. Et je passe tous les jours devant et je faisais pas attention, il y avait de la poussière. Donc j'ai pris un chiffon, j'ai enlevé la poussière. On s'habitue des fois à des choses, à une chose qui traîne. On s'habitue à un truc qui est pas rangé. On s'habitue. Moi, je m'habitue à ce qu'il y a du bazar dans mon garage, dans mon établi. Vous verriez un peu le truc. Quand je veux bricoler, il faut que je range tout. On s'habitue aux choses qui ne sont pas en ordre. Et bien là, c'est comme si je trimballais mon boulet et je ne m'en rendais pas compte. Alors, ben, j'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai dit que je vais te débarrasser de ce truc ridicule de non-pardon. Et j'ai dit, Seigneur, continue à me montrer s'il y a quoi que ce soit parce que je veux vraiment être libéré de tout ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti vraiment quelque chose comme ça. Je ne peux même pas le décrire. Comme une respiration, comme... J'ai dit, il se passe quelque chose là, Seigneur. Deuxième étape. Dans mon ancien travail, je me suis rendu compte, je vous la fais courte, mais que je cherchais à me glorifier par mon ancien travail et dans mon travail. Je cherchais la gloire des hommes, la reconnaissance des hommes pour être plus juste. Et au point que là aussi j'avais de l'agacement, c'est-à-dire que par un concours de circonstances, je me suis amusé à aller voir sur Internet quelle était l'information de la boîte où je travaillais avant. Donc je regarde et puis je vois deux, trois trucs, des sites pas à jour. Bon, je dis tiens, il faudrait que Carrel il fasse quelque chose là, parce que le site, c'est n'importe quoi. Et je vois donc, on parle de certaines personnes, on voit des services qui ont été créés, tout ça. J'ai dit, mais moi quand j'ai commencé, on était 7 à travailler. Quand je suis parti, que j'étais licencié, on était 70. J'ai créé la plupart des services. Et puis, mon nom, il apparaît nulle part. J'ai dit, c'est agaçant. Vous vous rendez compte ? Rechercher la reconnaissance des hommes. Quelle futilité ! Et à ce moment-là, je disais, Seigneur, il y a autre chose, donc montre-moi. Et là, vraiment, cette pensée, mais dis donc, tu touchais un salaire, pour le travail que tu as fait? Tu veux quoi d'autre comme reconnaissance? Tu as été payé. Si tu as fait plus d'heures, c'est ton problème, mais tu as été payé pour le travail que tu faisais. Alors, ben oui, la reconnaissance que tu cherches, tu l'as eue, tu as eu ton salaire. Ne cherche rien d'autre. Et là, je me suis senti pas bien non plus. Je me dis, cet orgueil mal placé, j'en veux plus, Seigneur. Je te le dépose, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de cet orgueil dans ma vie. Il ressemble à rien, à rien. Mais c'est tellement futile. Et pourtant, je le sais. On le sait. Mais cet orgueil, il est là. Il y a des amis qui me disaient, ouais, mais c'est normal, c'est humain. Bah ouais, mais moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas de ça, parce que ça m'encombre. Et quand on s'attend toujours à recevoir quelque chose des autres, on peut être que déçu. Alors que moi, voilà, j'arrête là. Et donc, quand je me suis rendu compte de ça, et que je trimballais ça depuis des années aussi, eh bien, et que j'ai déposé ça devant le Seigneur, que j'ai dit ça, j'en veux plus, c'est terminé, merci de me l'avoir montré. Ah, j'ai senti une nouvelle respiration. Mais alors, un bien. Tiens, j'en ai encore des frissons. Et depuis, on était donc mi-octobre, et c'est la période où habituellement mon état déclinait. À partir du mois de novembre, habituellement, je recommençais à avoir des petits peu de courbatures, des difficultés à réfléchir, une baisse d'énergie. C'est, avec cette maladie, c'est comme si vous aviez une batterie, imaginez une batterie de voiture qui est usée, qui va se décharger très vite, sans arrêt, il faut la recharger, prendre du temps. Dans ce temps-là, vous n'utilisez pas la voiture, vous rechargez la batterie, et puis vous l'utilisez un petit peu, et boum, elle se redécharge. Donc vous arrêtez la voiture et la recharger. Eh bien, c'est ça qui m'arrivait. Et c'est, pour moi, c'était particulièrement l'hiver. Bon, pourquoi, c'est comme ça. Et d'habitude, ça déclinait. Les années précédentes, l'hiver était compliqué. Je sais que je rentrais dans un cycle compliqué, au point que au mois de janvier, pour aller faire les courses, les années précédentes, c'était ma fille qui m'emmenait, parce que si je fais que je conduise, plus faire les courses, après c'était fini. Donc, et là, eh bien, l'énergie est remontée. L'énergie a remonté. Et continue à remonter. J'ai dit à ma femme, tu vois, je suis guéri. Il me l'avait promis, Jésus, je te l'avais dit. Eh bien, il m'a guéri. Ma femme ne disait rien. Un jour, on était en voiture, j'ai dit, eh, tu vois, c'est moi qui conduis, je suis guéri. Tu vois que je suis guéri. Elle me dit, j'attends de voir. Alors, en même temps, je la comprends. Elle a vécu cette galère pendant plus de 7 ans avec moi. Ça n'a pas été facile pour elle tous les jours de me voir dans cet état-là. Eh bien, maintenant, elle commence à voir, elle ne me le dit pas, mais elle voit bien que j'ai de l'énergie. Elle voit bien que le Seigneur, il a enlevé la vieille batterie qui était foutue, il a mis une nouvelle batterie. Et j'ai de nouveau de l'énergie. Je remercie le Seigneur pour ça. Si je vous raconte ça, d'abord parce que ça fait un an, et ça fait un an que la bénédiction, elle est là, elle continue. Certes, j'ai plus 20 ans, mais j'ai retrouvé de l'énergie. Et je peux faire des choses et j'ai envie de continuer à servir le Seigneur du mieux que je peux. Et de toute façon, c'est lui qui va m'aider pour pouvoir continuer à le faire là où il veut. Dans tous les chants qu'on a chantés, on le retrouve ça. Et la correspondance qu'il y a à ça, c'est avec ce que je vous ai dit ce matin, c'est que quand on prie et qu'on lui demande de nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies, il nous le montre. Et pour moi, dans ma situation, ça ne veut pas dire que ça sera la même chose, parce que Dieu il agit différemment avec chacun d'entre nous, parce qu'il nous connaît. Mais moi, de m'avoir montré les problèmes qu'il y avait dans mon cœur, et de les avoir vraiment mis en face, et parce que je lui avais demandé de me les montrer, il me les a montrés, et grâce à ça, j'ai eu la guérison. C'est comme s'il y avait deux portes avec des bénédictions derrière, et qu'il y avait des petits coins comme ça qui bloquent la porte. C'est pas gros, un petit coin, une petite cale en bois comme ça derrière la porte, sauf qu'on ne peut pas l'ouvrir la porte. Et ces deux petits trucs ont été, ces deux petits coins, ces deux cales-portes ont été enlevés, et la bénédiction et la guérison est arrivée à ce moment-là. Pourquoi c'était à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas, il ne m'a pas montré plus tôt? À la limite, peu importe. Peu importe. Peu importe. Pour moi, ça a fonctionné comme ça. Mais juste ce qu'il faut retenir, c'est que si vous demandez que Dieu vous montre ce qu'il y a à faire évoluer pour vous purifier dans votre cœur, il va vous le montrer. Et il va continuer à le faire dans ma vie, parce que je continue à lui demander. Parce qu'il y a encore du ménage à faire chez moi. Alors vraiment, Je vous invite, dans le temps qui nous reste, et je vais demander à l'équipe de louange de revenir sur scène pour nous conduire dans la louange à nouveau. De profiter de ce temps de louange, moi, c'est l'invitation que je vous fais. C'est que ce qu'on a partagé ensemble ce matin, c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'important. C'est comme une nouvelle porte à franchir. C'est comme, dans cette démarche de foi, une nouvelle marche à franchir. Encore et encore, on a tellement de chemin à faire sur les traces de Jésus. On a tellement de chemin à faire, à mettre nos pas dans les empreintes de celles de Jésus. Et alors ce matin, si vous le voulez, si vous qui voyez dans votre cœur, eh bien, faites cette prière. Faites cette prière afin que Jésus vous éclaire avec vos mots, avec votre façon. Pendant la louange, vous pouvez chanter la louange. C'est aussi une prière qui monte vers le Seigneur. Vous pouvez, dans votre cœur ou à haute voix, comme vous voulez, vous pouvez profiter de ce temps pour faire votre prière afin que Dieu vous éclaire par son Saint-Esprit sur ce qu'il y a à changer. Et dites-lui, aide-moi à changer, aide-moi à améliorer ce qu'il y a dans mon cœur, aide-moi à enlever ce qui n'est pas bon. Voilà. Laissez-vous conduire dans ce temps de louange, dans cette proximité avec notre Seigneur. Amen.